Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcastine.
En fin d'après-midi, le soleil se couche et les écoliers rentrent chez eux dans cette zone pavillonnaire de Mérignac. Sur les trottoirs, ils déambulent par grappes après avoir été déposés par des bus. Sur leur dos, un grand sac rectangulaire bien chargé. Trois silhouettes passent, silencieuses, dans ce vacarme de début de soirée. Les têtes baissées, elles se faufilent entre les lumières de fin d'automne. C'est Sylvina, 13 ans, son petit frère et son père. Ils marchent vite. Après une centaine de mètres, ils ouvrent une porte dérobée au fond d'un jardin public. À l'intérieur, une grande maison rouge en ruine. Ils s'y glissent pour rapidement se réfugier dans le sous-sol, comme pour ne pas être vus.
Pas d'école.
On veut attendre.
En bas, au bout d'un escalier, il y a deux salles sans fenêtres. Le béton est à nu. L'odeur de renfermé est mêlée à celle de la cuisine. Dans la première pièce, un néon éclaire une plaque électrique, des chaises en plastique et une table. Des tuyaux de canalisation strient le plafond, des vivres jonchent le sol poussiéreux. Dans l'autre pièce, il y a trois lits collés au mur. Au milieu, un petit chauffage à l'huile, la mère de Sylvina est assise. Dans cette pièce vide, le petit frère a pris soin d'accrocher quelques guirlandes pour Noël. Cette famille d'Albanais est arrivée en France au cœur de l'été 2022, après un périple de 5 jours. Pendant 3 semaines, ils ont vécu dans la rue, puis ils ont atterri ici, en octobre, grâce à l'aide de l'association Réseau Éducation Sans Frontières. En fait, la maison appartient à la mairie, ils squattent. Sylvina devrait être en 6e. Elle fait partie de ces 100 000 enfants privés d'école en France, selon le collectif École pour tous. Son frère, lui, s'ajoute à la longue liste des centaines d'enfants scolarisés mais sans domicile fixe en Gironde. Sa sœur et son père sont allés le chercher tout à l'heure. Ce qui est très difficile pour Sylvina, c'est qu'elle est déjà allée à l'école en France entre 2014 et 2018 avant de devoir quitter le territoire avec sa famille. En 2022, 4 ans après, elle donnerait tout pour y retourner.
Bah parce que à l'école, en fait, on apprend plein de choses et c'est pour notre futur, quoi. Et on peut avoir une vie meilleure avec l'école. On arrive à avoir des amis, plein de trucs. Oui, j'avais plein d'amis à l'école. Je me sentais bien avec les enfants, avec les profs, avec tout le monde. Mais là, j'ai passé un bilan d'accueil au CIO. C'est le centre d'information et d'orientation. Ils m'ont dit que j'étais très bien, que je pouvais passer en 5e et tout ça. Mais là, ça prend du temps à avoir une réponse pour rentrer au collège.
Les journées sont longues pour cette adolescente. Elle sort rarement du sous-sol, parfois pour aller à la bibliothèque d'à côté, lire des mangas, ou alors chez des amis pour aller se laver quand elle le peut. En attendant l'école, elle traîne, s'entraîne, elle vit cachée.
Ouais, c'est ça comme livre. C'est la dictée, on me les a prêtés pour que j'apprenne, quoi. Avant d'aller au collège, je sais lire. Parfois, dans la forêt, apparaissent des éclairs, une inverse de lumière, et peut-être des couples de cigognes noires, troublées dans leur solitude, s'échapper des eaux ramurées et filant à grands coups d'ailes. La traversée de ces clairières rendait la marche plus fatigante encore. Je fais parfois quelques trucs, mais c'est parce que j'ai un peu d'émotion là.
Pour cette famille, les conditions de vie sont difficiles. Ils peuvent être exclus à tout moment du logement qu'ils occupent. Le moral vacille. Devant ses parents, Sylvina craque.
Donc oui, je me sens très triste parce que à chaque fois, je vois les autres enfants, ils sont contents, ils vont au collège, ils ont une maison, ils ont plein de trucs. Moi aussi, je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir tout ça. Je voudrais qu'on ait les papiers, qu'on soit stabilisé bien.
En fait, ils vivent tous dans la crainte. Les policiers municipaux surveillent le bâtiment. L'autre jour, une voiture est passée. Elle s'est arrêtée, puis elle est repartie. L'angoisse. Elle monte en attendant que leur dossier soit examiné à nouveau.
Quand on est venu là, il n'y avait rien, il n'y avait que des matelas. Des matelas. C'est tout. Mon père, il était à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise. Et il est sorti, je ne m'en souviens plus. Et quand il est venu ici, il était un peu choqué de voir dans quelles conditions on était. On reste un peu avec la peur ici.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
On reste avec la peur, elle a dit. Mais lui, il passe avec la peur.
Le vendredi 18 novembre, des associations telles que RESF, Amnesty International, Réfugiés Bienvenus ou encore Tremplin organisaient une manifestation devant la préfecture de Gironde. L'objectif, dénoncer les conditions de vie des enfants sans logement, sans scolarité en France, mais surtout dans le département, à l'image de Sylvina et de son frère. Sous un ciel gris, Brigitte Lopez, membre du collectif RESF, tenait à rappeler les manquements des institutions en France. Avec les autres collectifs, ils voulaient célébrer deux jours en avance le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Un texte adopté le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies et signé par la France en janvier 1990. Cette convention liste des droits fondamentaux pour les mineurs, comme celui du logement, de la scolarisation ou encore de la protection.
Alors, on est là pour d'abord exprimer une colère. Ça, la colère que dans la cinquième puissance mondiale économique, une métropole riche, que tout le monde reconnaît comme riche, des enfants n'ont pas droit à l'école, n'ont pas droit à une vie décente, n'ont pas droit à un logement fixe. Les institutions qui, elles, ont les solutions en main. L'État pour l'hébergement d'urgence, le département pour la solidarité et la protection de l'enfance. Quant aux municipalités, pour la plupart, elles ferment les yeux ou disent que ça n'est pas de leur compétence quand il s'agit de ces situations. L'éducation nationale, qui elle, ne met pas les moyens humains pour répondre à ses missions.
Alors que des policiers commencent à entourer la manifestation, Brigitte Lopez continue son discours. Derrière elle, des pancartes où il est inscrit « La préfecture met des enfants à la rue ». Selon eux, il est possible de changer cette situation. Il ne s'agit que d'une question de moyens et de détermination.
Notre colère, c'est aussi la colère de ces dizaines d'associations qui ne sont pas entendues et qui doivent pallier au quotidien aux manquements de l'État et des collectivités territoriales. Combien de rapports, d'enquêtes, de constats alarmants d'organismes aussi reconnus que l'UNICEF, par exemple, combien de conférences de presse, c'est pas la première fois qu'on vous voit sur ces questions, avant que les choses ne changent. Mais aussi, on est là, et presque particulièrement, pour dire que des solutions existent. Elles existent ici et maintenant. Ce n'est pas une fatalité. Les associations ont travaillé ces solutions. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous sommes des gens de terrain. Nous les avons présentées, ces solutions, aux institutions. Rien dans la situation ne justifie les cas que nous allons décrire maintenant. C'est une question de volonté politique. Ça n'est pas un problème économique. ni un problème technique, comme certains nous répondent.
Derrière ce message, il existe évidemment des réalités. L'exemple de Sylvina n'est pas le seul. Les collectifs prennent en exemple une famille avec deux enfants en âge d'aller en primaire qui vivent dans des tentes à côté de Bordeaux-Lac. Finalement, le plus difficile pour ces personnes, ce n'est pas l'accès à la scolarité, mais le bon déroulement de l'année.
Donc, en Gironde, les refus d'inscription par les maires sont très rares. Je n'ai pas dit qu'ils sont inexistants. Ils sont très rares. Mais en fait, les ruptures de scolarité, elles, sont nombreuses. Alors d'abord, elles sont le fait de ces évacuations et de ces mises à la rue de familles et d'enfants qui font que, changeant de lieu de vie, s'éloignant du lieu de scolarité, les enfants ont de plus en plus de mal à être à l'école tous les jours. Par ailleurs, leurs conditions de vie font que des enfants ne vont pas à l'école parce que, comme certains parents ont honte, il faut appeler ça comme ça, d'amener des enfants mal habillés, pas lavés, parce qu'il n'y a pas d'eau, tout simplement, dans l'endroit où ils vivent.
Parmi la vingtaine de personnes venues manifester ce vendredi 18 novembre, il y a Françoise, elle est membre de l'association Tremplin. Elle aide les enfants, qu'ils soient isolés ou pas, à se scolariser. Souvent, ils présentent des séquelles après leur long périple.
C'est des enfants qui sont très traumatisés de par leur voyage, de par les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Donc, on constate vraiment des dommages psychologiques chez ces enfants. On a pu en scolariser, on les fait passer au CIO et on a pu en scolariser une grande partie. Mais on en a un nouveau qui arrive. Et bon, la scolarisation, c'est très lent pour que l'inspection académique réponde aux demandes et puisse les scolariser. Ils n'ont pas été scolarisés avant fin octobre, pratiquement en vacances. Là, les deux mois, ça a été bloqué, ils n'arrivaient pas à trouver des places, etc., parce qu'il manque de places aussi, il manque de classes adaptées. Enfin, il y a tout le système qui est, disons, en manque de personnel.
S'ils viennent en France, c'est pour fuir le pays d'origine par dépit plutôt que par choix.
Ils nous racontent leur voyage, qu'ils sont semés d'embûches. Ils fuient et la misère et les conditions dans lesquelles ils sont obligés de vivre. L'Afrique subsaharienne aussi, c'est la misère. C'est vouloir étudier en France, vouloir obtenir des diplômes et avoir un travail pour rester en France ou éventuellement repartir dans leur pays, mais ils veulent étudier.
Juste avoir une meilleure vie, quoi.
Avoir une meilleure vie, c'est ça. Fuir les problèmes climatiques aussi.
À l'approche des températures hivernales, des températures négatives, Bernie, présidente de l'association Bienvenue Réfugiés, s'insurge. Jusqu'où faudra-t-il aller pour que les autorités prennent en charge ces enfants ?
On arrive à un point où nous, association, les hébergeurs solidaires, l'association hébergeurs solidaires, mais en général les hébergeurs lambda qui veulent bien héberger un certain temps, sont saturés. Et donc ces familles sont à la rue. Et là, on arrive à l'hiver. Il va y avoir un drame si ça continue comme ça. Il faut arriver jusque-là. Nous, on tire la sonnette, l'alarme, et c'est de leur responsabilité. S'il y a un enfant qui meurt cet hiver, ce sera la responsabilité de Fabienne Bussiot ou ce sera la responsabilité de l'État. Mais en tout cas, il faudra bien qu'il y ait un responsable là-dedans. Mais ce ne sera pas nous parce qu'on l'aura dit et redit. Attention, il y a des enfants qui sont à la rue, quoi. Et ça, on ne peut plus, là, on ne peut plus.
En Gironde, les associations dénoncent les mois, voire les années perdues de scolarité pour ces enfants à la rue. Comme Sylvina, ils sont des centaines à attendre dans des conditions difficiles un retour sur les bancs de l'école.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.